France Musique. Musique et moi,
Carole Five,
Priscille Lafitte, France Musique.
Tu te réveilles dans des odeurs de white spirit et de poêle à pétrole. Aéré, vite, le froid de janvier te saute au visage. La veille, tu as peint toute la journée, mais tu n'es arrivé à rien. Tu jettes un œil vers la toile, l'épaisseur des strates d'acrylique. Tu t'es battu pendant des heures, rajoutant de la matière à la matière. À partir d'un certain niveau, le contact avec la toile est définitivement perdu. Il vaudrait mieux s'arrêter. Mais tu n'as pas su. Tu en as rajouté et rajouté, quel horrible gâchis. Cette toile, c'est la laideur incarnée, le ratage total, la preuve de ta nullité profonde. Tu as pu réussir quelques toiles, un coup de chance, mais ça ne se reproduira peut-être jamais. Rien n'est gagné. Tout se rejoue à chaque fois. Tu préférerais être une machine à peindre, réussir à chaque coup, enchaîner les œuvres. Tu rêves d'un grand atelier, de collectionneurs qui viendraient chaque semaine emporter tes œuvres au fur et à mesure que tu les produirais. Tu rêves d'une vie où la création serait simple, où tout se concevrait puis s'énoncerait clairement. Ineptie. Tu te tournes vers la toile. Il y a tout de même un morceau à sauver, un visage, le seul sur lequel tu ne te sois pas acharné, finalement. C'est presque rageant, cette réussite, comme une trouée au milieu du désastre.
Fellow sailors, come away. Your anchors be weighing. Time and tide will have bit no delay. Take a boozy short leave of your nymphs on the shore, and silence their mourning with vows of returning, but never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never, no, never intending to visit them more.
And away.
Bonjour Carole Five.
Bonjour.
Merci d'être au micro de Musique et moi ce matin sur France Musique. Vous êtes romancière, vous êtes diplômée des Beaux-Arts et on embarque avec vous dans votre dernier roman Térébenthine paru aux éditions Gallimard. On embarque dans un paquebot, un peu comme Aîné dans l'opéra de Purcell. Un paquebot du nom de l'école des Beaux-Arts de Lille. On se retrouve dans les cales de l'école en quelque sorte, avec trois étudiants qui veulent peindre. Ils sont, pense-t-il, aux Beaux-Arts pour cette finalité-là, celle de peindre, de savoir peindre, et les voilà contraints, forcés de se plier à l'air du temps et de concevoir des installations si possible avec des écrans. Alors comme dans Didon et Aîné de Purcell, l'être aimé, c'est la peinture chez vous dans votre roman, est inaccessible. Du moins, il y a bien des obstacles pour y parvenir. Quels sont ces obstacles-là dans le roman ?
En fait, c'est trois étudiants qui sont inscrits aux Beaux-Arts, deux filles et un garçon, Luc, Lucie et puis la narratrice, qui sont inscrits vraiment pour apprendre à peindre, à dessiner, avec cette envie, en tout cas, de pratiquer la peinture. Et ils vont rencontrer dans l'école, dès l'arrivée dans l'école, puisqu'il est inscrit sur la porte des ateliers des Beaux-Arts, peinture et ripolin interdit. Donc, dès leur arrivée, ils vont comprendre le prof de peinture est en dépression depuis des années, il n'a pas été remplacé, il n'y a pas d'enseignement du modèle vivant, du dessin. Donc, ils vont comprendre que ce n'est pas là, en tout cas, qu'ils pourront apprendre à dessiner ou à peindre. Et on va même chercher à les en dissuader, voilà, parce que ce sont des pratiques qui sont désuètes selon les enseignants et puis selon les galeries qui n'en exposent plus depuis des années, voilà.
Je vous propose qu'on écoute la suite de ces troisième actes de l'opéra de Purcell, parce qu'on assiste à une tempête, aussi bien dans l'opéra que dans l'esprit des étudiants des Beaux-Arts. Ils sont venus apprendre, vous le dites, des techniques de peinture, de perspective, et ils font face à l'adversité, même à une sorcière, en quelque sorte, comme dans l'opéra de Purcell.
Anchor's wing sails on falling fleet is made of luring beams gilding all deceitful streams. But not as took the quid forsook in this of throwing.
This is a plea to night. This.
La danse des sorcières qui se réjouissent du destin contrarié de Didon. Il y a aussi une sorcière contrariante dans votre roman, Carole Fives.
Je ne sais pas si on peut parler d'une sorcière, parce que aujourd'hui redevient à la mode d'être une sorcière. Je revendique le fait d'être pouvoir être sorcière. Mais en tout cas, Vera Mornay, qui est le personnage de l'enseignante qui fait des allers-retours Paris-Provence chaque semaine pour enseigner dans cette école d'art, pourrait effectivement être une sorte d'opposition, de mauvaise fée pour nos jeunes artistes qui veulent devenir peintres, parce que c'est un bébé art conceptuel années 70, donc elle rejette massivement tout ce qui est peinture et dessin, et elle va absolument leur interdire de faire ça, de peindre, de dessiner. Et voilà, pour elle, il faudrait toujours. Enfin, elle a un mépris envers ce qui n'est pas conceptuel et ce qui ne correspond pas à ce qu'elle a appris elle-même 20 ans plus tôt. Alors voilà, ça pose aussi un petit peu le problème de l'enseignement en art. Est-ce que on est toujours ouvert à ce qui se passe sous ses yeux quand on est enseignant en art, ou est-ce qu'on est
Et puis elle a une emprise psychologique sur ses étudiants des beaux-arts.
Ah oui, elle en a poussé. Enfin, la légende dit qu'elle en a poussé plusieurs au suicide. Et effectivement, c'est la méthode qui est employée par certains profs dans différentes disciplines, hein, pas qu'en art plastique. C'est la méthode assez violente de pousser les élèves jusque dans leur dernier retranchement pour leur faire sortir ce qu'ils ont plus profond d'eux. Ça marche parfois, mais pas avec tout le monde.
Alors, au risque de divulguer un petit peu votre roman, il y a des sacrifiés de l'amour de l'art dans votre livre. Il y a un suicide, comme pour Didon.
Je ne voudrais pas trop dévoiler la fin du roman, mais en tout cas, il y a un suicide qui est au démarrage de ce livre, puisque c'est effectivement le suicide de mon prof de modèle vivant, hors Beaux-Arts, qui a été quelqu'un de très important pour moi à l'école d'art de Douai. Dans la réalité, c'est un suicide assez récent, enfin, double suicide, puisque c'est avec sa femme, donc on ne connaît pas trop les conditions de leur départ. Mais c'est vrai que c'est ce départ qui m'a... J'ai projeté là-dessus tout l'amour que j'avais de la peinture, et puis effectivement je me suis dit il est artiste, et je me suis dit il s'est peut-être suicidé par dépit par rapport à la peinture. Enfin, j'ai aussi projeté beaucoup du roman de Zola qui s'appelle L'œuvre, où Claude le peintre finit par se suicider par impuissance créatrice lui devant sa toile, et les conditions du suicide étaient finalement assez proches pour cet enseignant. Donc ça a été pour moi vraiment le point de départ du roman. Donc il y a des suicides dans le roman, il y en a aussi avant le roman. C'est vrai que cette œuvre de Purcell convenait très bien.
On va explorer votre amour de l'art, Carole Fives, votre goût à la fois pour la peinture et pour les mots, mais aussi pour la musique. Et on entendait Didon est né dans une version enregistrée par le Concert d'Astrée, dirigée par Emmanuel Haïm, que vous avez entendu, vous, à Lille.
Oui, j'avais entendu le couronnement de Poppée et d'autres pièces. C'est vrai qu'elle a été, Emmanuel Haïm, elle est encore, je pense, en résidence à l'Opéra de Lille depuis 2004. Et donc on avait largement, enfin j'habitais Lille jusqu'à il y a encore 5 ans, et on avait largement l'occasion d'aller l'écouter. C'était vraiment... J'ai une amie d'ailleurs qui travaillait pour le Concert d'Astrée, et on avait des invitations facilement. Enfin, c'était vraiment un plaisir d'avoir cet immense chef d'orchestre à Lille.
C'est une de vos portes d'entrée dans le baroque.
Tout à fait.
Exactement. Et je crois qu'une de vos autres entrées dans la musique classique, c'est Chopin, la belle simplicité de cette troisième étude en mi majeur. La troisième étude en mi majeur opus 10 de Frédéric Chopin sous les doigts de Nelson Frère. Quand est-ce que vous avez entendu cette étude pour la première fois, Carole Five?
J'ai entendu, j'étais plus du tout enfant, hein, mais je suis arrivée, je devais être déjà jeune adulte, je suis arrivée à écouter Chopin, Brahms, par le biais de la chansonnette, on va dire, par Gainsbourg, qui écoutait beaucoup mon père quand j'étais enfant, et donc en réécoutant Chopin, j'ai dit, mais ça me dit quelque chose, en fait, effectivement, il y a toutes ces chansons de Gainsbourg, et c'est vrai que j'ai écouté très peu de musique classique étant enfant, et par contre, mon père mettait beaucoup de Gainsbourg, il l'écoutait au Touquet, dans un bar où on habitait là-bas. Et pour moi, si je suis vraiment arrivée à la musique classique, vraiment sur le tard, et toujours par des biais détournés, comme ça.
En remontant le fil,
voilà, il y avait vraiment un... Ouais, c'est ça. En fait, mon père avait pratiqué du piano étant enfant, et puis il avait fait un énorme rejet, parce que ses cours de piano, c'était pendant la récré, quand ses copains jouaient au foot. Et il avait décidé à ses parents qu'il voulait arrêter le piano. Et puis, en fait, le jour où il s'était décidé à leur dire, il est rentré de pension et son père lui a dit, il y a quelque chose qui t'attend là-haut dans ta chambre, va voir, on t'a fait une surprise. C'était un piano. Donc, mon père a fait du piano toute son enfance, sans jamais oser dire à ses parents qu'il n'aimait pas ça. Et nous, on n'a eu aucun enseignement. Enfin, vraiment, la musique classique était vraiment... Donc, ça arrivait très tard chez moi. Ça arrivait dans ma vie de jeune adulte, en fait. Et j'essaie de rattraper un petit peu les choses plus tard. Du coup, Gainsbourg, pour moi, c'était vraiment la référence pour Chopin, pour Brahms. Vraiment la porte d'entrée, exactement.
La clé. Carole Five, je crois qu'une de vos entrées dans le monde du son, ou peut-être de la trance, ce sont les musiques d'Europe de l'Est, ce sont les orchestres Tzigan. Par quel biais ?
J'ai mon frère qui est parti dans les années fin des années 90 faire la route de l'Est, comme on disait à l'époque. Donc c'était la route de l'Inde, c'était fini. La route vers l'Afrique, c'était pas encore. Il y a toute une période, on était attirés. Les voyages initiatiques chez les jeunes gens se faisaient plutôt vers l'Est. C'était l'époque de Gaggio Dio, des films de Costa Rica, de Tony Gatliff. Et mon frère est parti vers l'Est comme ça. Et il a traversé avec une mule l'Italie, la Slovénie, puis la Roumanie. Et il est arrivé effectivement dans les Carpates, en Transylvanie, où il a découvert les minorités hongroises qui étaient en Roumanie et les minorités des minorités qui étaient donc les tziganes. Et il s'est intéressé là-bas à mon instrument qui s'appelle le brak, qui est un violon hongrois traditionnel. Et il est par la suite lui-même devenu luthier grâce à cette expérience. Aujourd'hui, il est luthier de violon et de violoncelle et archetier. Et il a ramené de ce pays des musiques tziganes qui ont vraiment marqué cette époque-là. Le plus connu à Bucarest, effectivement, c'était le Taraf de Haïdouk. Puis plein d'autres musiques. Puis donc c'est vraiment ma porte d'entrée, c'était mon frère et son voyage vers l'Est, parce que je suis allée le voir assez souvent ensuite.
Vous êtes allée le voir, ça s'est rendu visite.
Oui, tout à fait, oui. Je suis allée le voir là-bas. Et moi, j'étais vraiment la grande sœur un peu inquiète pour son petit frère qui dormait dehors dans des conditions pas possibles, dans des pays que je trouvais dangereux à l'époque.
Il vous dormait dehors.
Ça a été... Oui, il était avec sa mule toujours. C'était vraiment dans une. Mais voilà,
un certain dénuement.
Là... Bah ouais, il avait 20 ans.
Et il voyageait avec une mule.
C'était une sorte de mode. Il y avait les mules, il y avait les charrettes. Voilà, on y allait. Voilà. C'était vraiment Gaggio Dio, hein, comme dans le film. D'ailleurs, il a été photographié et filmé avec un pote de voyage par la photographe de Tony Gatliff sur le film Gaggio Dio. Donc, il était vraiment au cœur de l'aventure.
Et il y était pour entendre des musiques, pour récolter des musiques.
Je crois qu'il est vraiment parti. Ce voyage initiatique, vraiment comme on le fait à 20 ans pour remettre un peu les compteurs à zéro. Et je pense que les musiques qu'il a rencontrées là-bas, la musique tzigane avec son expression des plus grandes douleurs qui d'un seul coup devient grande joie, c'est quelque chose qui l'a vraiment transformé et ce qui lui a permis de toucher des zones, je pense, des émotions. Et cette musique-là, je pense, permet de faire sortir beaucoup de choses. Et grâce à lui, j'ai pu aussi la découvrir, c'est vrai.
C'était l'ensemble Taraf de Haïdouk. Votre voyage initiatique, à vous, Carole Fives, votre façon de vous perdre, ça a été d'emprunter les couloirs des Beaux-Arts ?
Oui, c'est vrai que j'ai aussi cherché, en faisant les Beaux-Arts, à exprimer effectivement dans la peinture, dans le dessin, et puis dans d'autres médiums, des émotions, effectivement, sur lesquelles je ne pouvais pas poser de mots avant de les... c'est ce qui est bien avec, effectivement, la peinture, le dessin, comme avec la musique, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on crée, qu'on le découvre qu'après coup, et c'est parfois... Assez terrifiant. Enfin, en tout cas, c'est aussi une découverte de soi, effectivement, comme le voyage initiatique.
De votre frère.
Vous avez raison, c'est exactement le même objectif. Oui.
Vous en parliez ensemble avec votre frère ?
Moi, j'étais un peu plus âgée que lui, j'avais 3 ans de plus. Donc, non, on n'en parlait pas tellement, mais c'est vrai que je pense qu'à 20 ans, on a tous besoin de se trouver.
Vous étiez-vous attirée par la peinture, comme dans le roman ?
Complètement. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts aussi. J'avais fait des études de philo avant. J'ai un petit peu hésité entre différentes choses avant. Et j'ai fait les Beaux-Arts. Enfin, j'ai fait la fac d'art plastique avant. Donc, les Beaux-Arts, c'était plutôt en 4e ou 5e année. J'ai pas exactement le parcours que je raconte dans le roman des 3 premières années, bien découpé comme ça. Et ça a été pour moi, effectivement, une façon d'apprendre beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup aussi des relations avec les autres étudiants, entre artistes, je pense, autant que par les enseignants, oui.
Il y a une thématique qui est très présente dans votre livre, c'est la place des femmes dans l'histoire de l'art. Est-ce que c'est une réflexion que vous aviez déjà quand vous étiez étudiante ?
Oui, parce qu'effectivement, comme mes étudiants dans le roman, mes étudiantes, j'étais assez choquée dans les années 90-2000 de constater que dans les cours d'histoire de l'art, on nous montrait, pour illustrer les mouvements très connus comme le minimalisme, l'art conceptuel, l'art abstrait, on nous montrait toujours des œuvres par diapositive ou sur vidéo d'hommes artistes. Alors c'est dommage de devoir à nuancer homme ou femme artiste, mais c'est vrai qu'il fallait quand même constater que c'était toujours des œuvres réalisé par des hommes. Donc il y avait une sorte de difficulté, je pense, pour beaucoup d'étudiantes à se projeter dans une carrière artistique quand on ne montre que des œuvres réalisées par des hommes. Donc, je crois que c'est très important de respecter quand même aussi une sorte... Parce que voilà, l'exposé que vont faire les étudiantes dans mon livre, à un moment donné, elles vont se révolter, elles vont dire « Attendez, on est comme une majorité de filles dans l'amphi et vous nous montrez que des hommes depuis le début de l'année, comment se fait-il » Et l'enseignant qui va simplement leur dire « Mais je comprends pas, j'ai voulu montrer des œuvres emblématiques de tous les mouvements » et alors... Et donc les étudiants réagissent en disant, alors les œuvres emblématiques, enfin les œuvres phares, les œuvres majeures sont donc réalisées par des hommes à chaque fois, et on va vous prouver le contraire. Et ils leur proposent de faire un exposé, et dans l'exposé qu'elles vont faire, elles ne vont parler, voilà, donc elles vont avoir en gros 2 heures dans l'année pour ne parler que des femmes artistes. Donc ça va être une petite séance de rattrapage où elles vont montrer que dans tous les courants dont il a parlé depuis le début de l'année, il aurait très bien pu citer des femmes, et des femmes dont l'œuvre est très importante.
Oui, ce sont des étudiantes du coup qui démontrent cela aux profs.
C'est ça, aux profs. Tout
à fait. Renversement.
Exactement.
De qui enseigne à qui, avec une référence aux Guerrilla Girls, ces femmes qui mettent un masque de gorille aux États-Unis.
Oui, les Guerrilla Girls, effectivement, qui ont participé à cette prise de conscience, justement, du fait que les femmes soient minoritaires, enfin majoritaires, par exemple, elles disent au Louvre dans les œuvres qui sont exposées, et minoritaires dans les artistes.
Ouais. Alors, on va faire quelques correspondances ce matin, si vous voulez bien, Carole Fives, entre la peinture et la musique, spécifiquement sur cette thématique-là, de la place de la femme artiste. Voici Barbara Strozzi, la compositrice, Casey Pofar. Thank you. Barbara Strozzi, qu'est si pauvre phare? Que puis-je faire? Les étoiles intraitables n'ont aucune pitié. Dans la voix de Mariana Flores, accompagnée de la Capella Mediterranea, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
La romancière Carole Fives est l'invitée de Musique et moi ce matin. Que vous évoque le parcours de cette compositrice, Barbara Strozzi?
Bien, c'est la première compositrice professionnelle, on peut dire, dans l'histoire de la musique classique. Donc c'est quelque chose quand même, femme. Et elle était par ailleurs mère célibataire de 4 enfants. Donc je pense qu'il y a trop peu, malheureusement, de compositrices dans l'histoire de la musique classique. Et je pense que c'est important de l'interpréter, de la faire entendre, de la faire écouter. Elle, et voilà, en ce moment, je sais qu'on défriche et on découvre beaucoup de compositrices. On pensait qu'il y en avait peu, enfin, il y en a beaucoup plus qu'on le pensait. Et c'est important aussi de les montrer et de les réhabiliter.
Dans la peinture, quelles sont les femmes qui comptent pour vous ?
Ah, il y a beaucoup de femmes qui comptent pour moi dans l'art moderne et l'art contemporain. Et dans la peinture particulièrement, j'en parle un petit peu dans le roman, c'est par exemple Marlène Dumas, qui est une peintre sud-africaine qui m'a tant installée en Hollande, qui a peint comme ça beaucoup sur l'apartheid, et puis qui est dans le portrait, des portraits immenses. Il y a une rétrospective d'Halloween Expo, je ne sais plus, à Beaubourg, il y a quelques années. Et pour moi, c'est une présence dans le portrait, dans le corps, et une peinture de... Voilà, c'est très très fort, c'est une œuvre vraiment, je pense, magistrale, et c'est une peintre essentielle. Et ensuite, il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple Charlotte Baudry, qui est une jeune peintre bruxelloise qui a fait le bandeau du roman, Térébenthine, et qui est aussi quelqu'un de pas très connu en France, mais connu partout ailleurs, bizarrement. Et Elizabeth Payton, par exemple, une peintre anglaise très connue, Carole Benzaken. Voilà, il y a beaucoup de femmes peintres aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a, c'est vrai, comme je l'ai dit dans le roman, une espèce de retour depuis 10-15 ans de la peinture en France, donc c'est très bien. Et il y a aussi des plasticiennes, bien sûr, comme Barbara Kruger, Sophie Kahl, beaucoup d'autres plasticiennes qui m'ont inspirée.
Alors, il y a une chose remarquable pour Barbara Strozzi, c'est que nous avons non seulement un portrait d'elle, qui a été peint par Bernardo Strozzi, c'est pas forcément de sa famille, vers 1640, quand elle avait environ une vingtaine d'années, 20 ans, 21 ans, mais elle a très probablement aussi servi de modèle pour des représentations de la sainte patronne des musiciens, Sainte Cécile. Alors, une autre femme dont on va entendre la musique ce matin, c'est Clara Schumann. Voici le mouvement lent, la romance de son concerto pour piano en la mineur. Brigitte Engerer est au clavier.
Thank you.
Le mouvement lent du concerto pour piano en la mineure de Clara Schumann, Brigitte Enger au piano, accompagnée du violoncelliste Philippe Cochefer, ainsi que de l'orchestre de Cannes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la direction de Philippe Binder. Vous avez parlé souvent de maternité, Carole Fives, dans vos précédents livres, notamment dans « Tenir jusqu'à l'aube » qui a précédé « Térébenthine ». Vous parlez de l'enfermement de la maternité, de cette envie d'ailleurs de fuir, et j'imagine que le sort de Clara Schumann, qui était concertiste, compositrice malgré les événements, malgré le contexte, malgré tout, elle nous a légué plusieurs œuvres dont son concerto, et mère de 8 enfants, elle suscite chez vous un petit peu d'empathie ?
Avec Clara Schumann, je connais pas tellement son histoire, mais simplement j'ai l'impression qu'il y a là un auto-effacement même de la musicienne devant la femme et devant la mère, puisqu'effectivement 8 enfants, et devant Robert, devant son époux, dont elle pensait que son art était bien plus important que le sien, alors que c'était elle qui faisait quand même bouillir la marmite. Et là, je pense qu'on est effectivement dans une conception où la femme ne s'autorise pas à aller vers, enfin, chez Clara Schumann, en tout cas, ne s'autorise pas à être autre chose qu'une mère, qu'une épouse, alors que de fait, elle était autre chose. Mais c'est intéressant de voir comment les femmes avaient vraiment intériorisé cette règle et comment il a fallu des siècles pour pouvoir s'autoriser à faire autre chose qu'être simplement muse, femme, épouse et être aussi artiste.
Oui, c'est une problématique qui traverse un petit peu vos romans aussi, cette question de la place de la femme et particulièrement de l'arrivée dans la maternité qui fait à la fois blocage et qui crée certaines envies aussi. Ça ouvre certaines portes peut-être intérieures à la maternité.
Oui, c'est vrai que dans Tenir jusqu'à l'aube, donc mon précédent roman, je parlais vraiment d'une mère célibataire qui était enfermée chez elle puisque elle travaillait en freelance, donc elle n'avait pas de mode de garde. Et donc les 3 années de petite enfance, elle les passait vraiment comme un tunnel très très long et dont elle ne pouvait s'échapper que la nuit en faisant effectivement des fugues. Et donc une maternité très oppressante.
Elle est forcément oppressante, la maternité, pour vous ?
Pour moi, oui, hein, parce que la maternité avec ma mère a été oppressante, et la maternité en tant que mère d'un enfant, elle est tout autant. Oui, oui, je pense que c'est, elle l'est parce que je pense on porte un poids qui est encore trop derrière cette tâche, on met trop de choses, c'est encore trop lourd pour les femmes et soi-même effectivement, comme Clara Schumann parfois, on va encore se culpabiliser trop, les femmes vont se mettre des injonctions elles-mêmes qui sont encore, je pense, très très forte encore par rapport à une maternité idéale et qui est encore très lourde à porter, je pense, à cause de ça.
Jusqu'à cette injonction peut-être de faire de l'art total, comme le pratique Laurie Anderson. On va écouter son dernier album, Landfall. On écoute et on en reparle après. Thank you. Le début de l'album Landfall de Laurie Anderson, accompagné du Kronos Quartet. C'était CNN annonce une tempête monstre, puis le vent siffle dans la ville sombre. Laurie Anderson fait partie des artistes que vous citez dans votre roman, Carol Fife, dans votre roman Térébenthine. Quelle importance a Laurie Anderson pour vous ?
Disons que c'est une artiste totale, et parce qu'elle a pratiqué. Effectivement, je l'ai connue par le biais des arts plastiques, et je suis arrivée à sa musique après, parce qu'effectivement, sa musique était, disons, illustrer les performances qu'elle faisait à l'époque. Et d'ailleurs, l'espèce de tube au Superman qu'elle a fait dans les années 80 était la musique d'une performance à la base. Et elle est importante, comme toutes ces femmes artistes que je cite un moment dans le livre, parce qu'elle est une pionnière, déjà, et parce qu'elle est compositrice. Et à la fois, elle a fait des études, elle était violoniste étant enfant. Donc, elle va écrire pour la musique et aussi faire des performances sur cette musique. Donc, elle a fait des études de sculpteur après avoir fait ses études de musique classique et d'historienne de l'art. Donc, elle a vraiment développé ce rapport entre la sculpture et la musique. Elle fait donc des sculptures sonores. Et c'est quelqu'un qui a, justement par rapport à son instrument de base, le violon, elle a inventé de nouveaux violons avec lesquels elle a joué pendant ses performances. Elle a mis des sons, des paroles dans la musique. Enfin, vraiment, elle est du côté de l'expérimentation. Son travail est très novateur parce qu'elle se trouve, je pense, à un endroit qui est justement nouveau, entre deux disciplines comme ça, entre la sculpture, la musique. Et c'est souvent comme ça dans le multimédia, à la lisière entre différentes formes artistiques, que vont s'inventer des nouvelles formes. Et pour ça, elle est vraiment géniale parce qu'elle est, au début, enfin maintenant ça fait 40 ans, et elle est en plus toujours présente avec cet album qui est sorti hyper récemment. Et là justement, les voix qu'on entendait, c'est des voix qui sont générées par ordinateur à partir de notes de musique. Donc même sur son dernier album, elle a encore été inventée, inversée comme ça, ce processus. Donc je trouve qu'elle est, elle est passionnante.
Et il y a une part politique aussi dans ce dernier album. Ça parle, c'est un peu apocalyptique, cet album, sur l'environnement, sur...
Tout à fait, oui. C'est un album qui parle beaucoup de dérèglement climatique, effectivement. Et donc, elle en parle à travers des textes aussi personnels et très politiques, toujours, comme toujours chez elle, oui.
Un autre artiste multifacette, je crois, qui est important pour vous, c'est David Bowie.
Ah, oui.
Quand est-ce que David Bowie est entré dans votre vie, dans votre parcours ?
Alors David Bowie, c'était très jeune parce que j'étais vraiment fan. C'était à l'époque de Let's Dance, enfin dans les années 80, enfin c'est plutôt 87 sur l'album juste après. Et j'étais surtout fan de sa voix, qui pour moi est vraiment sublime. Et puis ensuite, en découvrant petit à petit ses différents albums et les différents transformation du personnage d'album en album. Et voilà, c'est ce qui est assez fascinant chez lui, c'est le fait qu'il soit aussi à la fois dans le mime, dans la chanson, dans la musique, mais qu'il est aussi il y a cette performance physique avec ses changements de corps et de personnage pour chaque album qui sont assez étonnants. Et c'est quelqu'un de tout à fait fascinant, même par rapport au genre. Enfin, vraiment, j'étais une vraie fan. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'à Londres voir la maison où il avait grandi. Avec des copines, on était à des concerts, on s'est évanoui sur la scène, on était évacués. Enfin, on a vraiment été c'était mon premier choc musical. C'était beau, oui.
Your life itself.
David Bowie, Wild as the Wind, en 1976.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Carole Fives est l'invitée de Musique et moi ce matin pour son livre Térébenthine, paru aux éditions Gallimard. C'est la bande son de votre livre, en quelque sorte, David Bowie, pour vous ?
C'est la bande son de...
De votre vie ?
J'allais pas jusque-là. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que c'est la narratrice qui a réussi une toile, et après plusieurs heures où elle a vraiment, elle s'est battue avec la toile, avec la peinture, dans une espèce d'accès comme ça romantique. Et à un moment donné, elle a l'impression fugitive, puisque le lendemain, on verra que ça va retomber, cette impression qu'on peut avoir quand on est artiste, à un moment donné, d'avoir réussi, d'un coup de génie, en fait. Et donc, elle va sortir de chez elle et mettre Bowie dans les écouteurs, et puis partir, courir dans la rue et danser sur Let's Dance, je crois, oui.
Donc c'est de la joie qui est associée à David Bowie dans cet instant-là. Vous souhaitez qu'on écoute à présent l'hymne à la joie de Ludwig van Beethoven. C'est aussi une source de joie pour vous, Beethoven ?
Oui, j'ai voulu donc casser cette espèce de tradition familiale qui nous empêchait de faire du piano, et j'ai toujours eu, moi, cette envie de faire du piano, donc évidemment...
Parce que vous nous parliez de votre père un peu plus tôt, qui lui avait été dégoûté un peu de cet instrument, voilà. Et vous auriez voulu en jouer.
Ah oui, tout à fait, moi j'ai regretté de ne pas pouvoir en jouer, et donc là j'ai un petit garçon de 6 ans que j'ai inscrit en cours de piano depuis déjà un an, et qui me joue régulièrement l'hymne à la joie, effectivement, et je trouve ça vraiment sublime, même si c'est annonné. Et voilà, et moi aussi, parfois, je m'y mets un petit peu comme ça, alors de façon voilà, très très basique, mais c'est vraiment un air que j'adore. Ouais.
Est-ce que votre fils a la grande fresque en tête quand il joue les notes de la 2e symphonie de Beethoven ?
Je ne pense pas du tout, il est vraiment juste dans le morceau.
Thank you. C'est un extrait de la 9e symphonie de Beethoven. L'orchestre baroque de Fribourg est placé sous la direction de Pablo Heras Casado. On parlait de votre fils un tout petit peu plus tôt, Carole Fives. Vous êtes aussi autrice pour la jeunesse. Vous faites des ponts régulièrement comme ça entre votre univers adulte et l'univers des enfants.
Je ne fais pas vraiment de pont, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai 5 ans, donc je vais écrire pour les 5 ans. À un moment donné, j'ai 13 ans, donc je vais écrire.
Voilà. Ça dépend du moment de la journée ?
Non, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est aussi un des luxes quand on est auteur, c'est de pouvoir voyager aussi comme ça, entre les âges, et de pouvoir se projeter dans un autre âge qui a pu être le sien, ou même voilà, on peut aller bien au-delà, et je trouve ça amusant. Et effectivement, je fais beaucoup de ponts en fait entre les deux, et pour moi c'est pas du tout différent d'écrire un album pour les tout petits. La démarche n'est pas différente de celle de l'écriture d'un roman, finalement. C'est simplement l'entrée et le ton qui va être différent, etc. Mais bon, voilà, après j'écris de la même façon.
À quel rythme est-ce que vous écrivez?
Je pense beaucoup à des projets de romans, j'essaye beaucoup de choses, et finalement quand après le projet vraiment est là, j'ai compris où je devais aller, que j'ai trouvé surtout outre le thème du roman, outre l'histoire que je voulais raconter, aussi le dispositif, c'est-à-dire comment la raconter, à partir du moment où j'ai trouvé ça, ce qui est même plus long, qui peut prendre des mois, voire des années, après ça peut aller très vite, ça peut être fait en quelques mois, en tout cas le premier jet d'écriture. Mais le plus compliqué pour moi, c'est vraiment de trouver vraiment la façon dont je parlais des choses, en fait, et la façon de raconter.
Si je vous parle de rythme, c'est que vous avez demandé à ce qu'on écoute Steve Reich.
Oui, c'est vrai.
Et quelque chose de répétitif,
oui,
pour vous. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la musique répétitive ?
J'aime le côté hypnotisant, lancinant. Et voilà, ce que je cherche un peu dans la musique, qui permet justement de penser, de laisser un peu de la place aussi pour l'auditeur. Et une musique qui soit pas trop envahissante, en tout cas. Et la musique répétitive, c'est vrai, j'y suis aussi arrivée par David Bowie. Oui, parce que d'ailleurs, je pense que dans le morceau Different Trends, c'est vraiment inspiré il s'est inspiré de Station to Station, qui est aussi un album de David Bowie, où on entendait d'ailleurs déjà des bruits de train, tout simplement, de locomotive. Oui.
Voici Before the War, de l'album Different Trends, de Steve Reich, par l'Orchestre National de Lyon, dirigé par David Robertson.
From Chicago to New York. One of the fastest trains.
Crack train from New York. The crack train from New York. The crack train from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York. The crack train from New York, from New York. The crack train from New York.
New York to Los Angeles. From New York to Los Angeles. New York to Los Angeles.
On parlait d'écriture un peu plus tôt, Carole Fives. Et il y a une chose qui me frappe dès les premières pages de votre roman Térébenthine, c'est le point de vue de la narration. Vous écrivez à la deuxième personne du singulier. Hein, vous écrivez oui. Tu. À qui vous adressez-vous?
Alors c'est un tu qui s'adresse à la fois au lecteur, à qui je souhaite faire partager ces trois années de Beaux-Arts. Parce que je suis partie un petit peu de l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, t'as fait les Beaux-Arts, t'as de la chance ». Qu'il y a beaucoup de gens qui se sont interdits en fait de faire des études d'art ou de faire des choses comme ça, des études artistiques. Et je me disais « Bah tiens, c'est un tu qui va... » J'emmène un peu le lecteur avec moi. Je lui dis « Tiens, viens avec moi dans les caves des Beaux-Arts. Viens voir comment ça se passe. » Et viens voir la réalité de ces trois années aux Beaux-Arts. Donc c'est un tu impliquant, je pense, qui adresse au lecteur. Puis c'est peut-être aussi un tu qui s'adresse parfois à l'étudiante que j'ai été, même si je n'ai pas fait ces trois années de la même façon.
Il y a un jeu derrière.
Il y a un jeu derrière le tu aussi, et qui s'affirme parfois plus, effectivement, à certains moments de l'histoire.
Ouais. Vous parlez à vous-même un petit peu.
Il y a un peu de ça. Je parle surtout à l'étudiante idéaliste qui est entrée aux Beaux-Arts et qui en est ressortie un peu désillusionnée.
C'est un monologue intérieur un peu. Qui est fait de culpabilité? Qui est fait de quoi? Qui est rempli de quoi ce monologue?
De culpabilité, non. Vraiment, la culpabilité, c'est une thématique qui a vraiment traversé mes romans antérieurs. Mais alors, pour le coup, je crois que celui-ci, il est plutôt traversé. S'il y avait une émotion dominante, ça serait plutôt la colère. La révolte, oui. De ces étudiants, on leur interdit de faire ce qu'ils ont envie, ce pourquoi ils sont venus faire, et c'est comment s'organiser cette résistance. Donc c'est plutôt un roman de lutte et un roman de colère qu'un roman de culpabilité. Mais la culpabilité, elle est... ouais, je pense qu'elle est... Dans le dernier roman, moi, je la vois beaucoup moins. Je pense que justement, c'est peut-être mon roman de ce côté-là qui montre quand même une évolution. C'est un peu rassurant, vous.
Est-ce que c'est parce que vous avez déjà assez écouté Lassa et son titre, La Confession?
Exactement. Je trouve que dans cette chanson, c'est tout l'art de la chanson qui, en très peu de paroles, en un refrain presque, dit tellement de choses, dit tout en fait.
Et qui vous a travaillé?
Alors je sais pas, mais c'est vrai que c'est une chanson. Alors j'adore la voix de Lassa, j'adore vraiment la personne. Et c'est vrai que ses paroles sont sublimes. Alors je sais pas si ça m'a travaillé, mais c'est vrai que ça faisait écho en tout cas beaucoup à une culpabilité sous-jacente, bien sûr. C'est tellement juste et c'est tellement bien chanté en plus.
La la. te dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire, je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. La 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 la. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. La, la, la.
Lhasa, en public à Reykjavik. C'était la chanson La Confession. J'aimerais qu'on parle de votre écriture encore, Carole Five, parce que la narratrice de Térébenthine, dans votre roman, voudrait devenir peintre et puis elle finit par poser des mots sur ses toiles. C'est un processus par lequel vous êtes passé, vous aussi ?
Oui, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus autobiographique sur la fin du roman, c'est le passage de la peinture à l'écriture, effectivement. C'est-à-dire qu'elle est en dernière année et on lui demande pour son diplôme de dernière année de rédiger une sorte de mémoire qui accompagnerait la peinture, les peintures qu'elle présente pour son diplôme. Et elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à rédiger ce mémoire qui est quand même assez conséquent. On lui demande, je ne sais plus, 50 ou 100 pages. Et à un moment donné, devant son incapacité à produire ce mémoire et à parler de ses toiles, elle dit simplement à une des enseignantes, à son enseignante principale, écoutez, à ce moment-là, moi, je ne peux pas parler de mes peintures. À ce moment-là, si je voulais que j'écrive 100 pages, je vais écrire un roman. Ça sera un roman, ça ne sera pas un texte critique sur mon travail. Et alors, par défi, l'enseignante lui dit, eh bien alors, écrivez. Et finalement, c'est ce qu'elle va faire. Et puis petit à petit, les toiles, effectivement, vont se peupler de phrases, de mots. Au départ, c'est des mots qui accompagnent les images. Et puis ensuite, effectivement, ça va être des toiles textes, en fait, des toiles pages.
Et finalement, voilà. Un roman. Et
finalement, un roman qu'elle va présenter pour son, pour son diplôme.
Et en miroir, vous, Carole Fives, vous êtes aussi passée par ce processus-là. Vous avez gardé des toiles que vous avez peintes? Est-ce que vous dessinez encore?
Non, moi j'ai fait un horrible auto-da-fé. Non, j'ai quelques toiles encore, mais j'ai pratiquement tout jeté. Et effectivement, c'est assez autobiographique. Hein. Je suis vraiment passée. J'ai eu ce passage très plastique finalement à l'écriture par la toile. Mais je n'ai plus de toile et je ne pratique plus du tout le dessin ni la peinture, sauf parfois par plaisir.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de votre roman, spécifiquement sur ce passage de la peinture à l'écriture? On va écouter les Gnossiennes d'Éric Satie, car je crois que c'est une de vos
inspirations.
Oui, de vos inspirations. Et on vous écoute.
Au début, ce sont des mots peints sur la toile, des fragments, des phrases entendues ici ou là. Ils viennent accompagner les images. Leur sens compte peu. Il disparaît derrière leur valeur plastique, leur lettrage. Tu joues sur leur lisibilité, dessinant certaines lettres, en effaçant d'autres. C'est un texte indéchiffrable, un texte en suspens. Tu traites les mots comme les images, en transparence. La peinture laisse passer la lumière. Elle n'est pas cet écran qui ne renvoie qu'à lui-même. La peinture irradie, et les mots, petit à petit, viennent s'inscrire dans ses glacis, ses coulures, ses fragilités. Et puis, les mots envahissent l'espace, prennent la place des figures, des corps, des mouvements. Les mots prolifèrent jusqu'à envahir la totalité de la toile. Tes peintures deviennent des lignes, des pages. Tu écris « Je serai peintre » à la ligne, « Je serai peintre ». Tu le copies 100 fois, comme une injonction, un serment. Et plus tu écris « Je serai peintre », plus tu deviens écrivain. Le sens s'installe, les paragraphes en découlent, et la figure devient roman.
Aldo Ciccolini au piano pour ces trois gnossiennes d'Eric Satie. Merci beaucoup, Carole Fiff, d'avoir été l'invitée de Musique et Moi ce matin. Vous avez parlé de votre roman Térébenthine qui est paru aux éditions Gallimard. Merci à Jean-Benoît Tétu à la technique, Marie Grou à la réalisation et à Marie Ferdinand qui a préparé cette émission. Très beau dimanche à vous sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.